Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, par chez moi. Vous voulez voir mes 400 hectares? Comme c'est propre, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, ces petites saloperies. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus une herbe, plus un animal. Rien. Avec le Xerox 3000. Ah, ça te nettoie tout.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement parce qu'on n'attend pas le changement mais que nous sommes le changement. Et cette émission est dédiée à Jean-Éric Zielkowski qui était un homme mais formidable et qui a fait un excellent travail pour le bien commun de notre maison ronde. Et puis elle est aussi dédiée à Cyril Pestugia qui est le fils de mon réalisateur Xavier Pestugia. Alors des pensées très fortes vers eux tous. Et cette semaine, eh bien, à la technique c'est Gaël Braouzek et Grégory Vallon et c'est Lilian Allôme et Claire Destacan que je remercie très fortement et qui réalise au pied levé cette émission. Alors, dans l'actualité. Alors oui, le référendum de Notre-Dame-des-Landes est prié quand même de laisser la place au Brexit et à l'euro. Le glyphosate, c'est-à-dire un tiers du chiffre d'affaires de Monsanto, eh ben, il a gagné 18 mois, ça on le sait. Les perturbateurs endocriniens qui s'amusent avec nos hormones, comment vont-ils? Bah, pas mal. La Commission européenne, qui est assez pro-pesticides, pro-OGM et pro-chimie, ça je vous apprends rien, voudrait imposer un niveau de preuve très important pour qu'une substance soit identifiée comme perturbatrice endocrinienne, traduction, résister au maximum pour ne pas exclure ces substances dangereuses du marché, qui se retrouvent quand même dans une large gamme. Alors sur le sujet, Ségolène Royal d'ailleurs résiste bien. La France est quand même assez en pointe pour tenter de prévenir les risques et limiter l'exposition, en particulier quand même les femmes enceintes et les jeunes enfants, en accélérant aussi les travaux de l'ANSES. Bon, voilà, donc ça c'est du côté du front de la chimie. Et alors sinon, qu'est-ce qu'on a eu? Ah si! Accusé, levez-vous. Quel est votre nom? Blaireau. Non, attendez, vous fichez pas de moi. Des blaireaux, j'en connais plein. Non, c'est vrai ça, monsieur le président, mais moi je suis quand même un blaireau, je suis un mustélidé. Et ce serait pas mal qu'on nous fiche la paix. Parce que dans nos terriers, on ne demande rien à personne, nous. On sort la nuit en douce, vous savez, joliment masqué de noir. Pas de bruit, on se roule dans l'herbe en famille, on furette et on se gave en bon gros nounours que nous sommes, de mûres, de fruits sauvages que la nature nous offre. Bon, aussi un petit peu de maïs de temps en temps, on chasse des lombrics, des taupes, des crapauds, des bonheurs, hein, mais uniquement les crapauds qui ne se transforment pas en prince charmant. Non, non. Bon, bref, on a une vie tranquille, mais juste à l'écart, vous savez, des acharnements éclairés de votre brillante civilisation, des folies hystériques autour du foot et des canettes de bière éclatées. Ouais, mais alors quand même, en France, je constate que vous êtes entre 1 et 10 blaireaux pour 10 km carrés. C'est 200 à 500 au Royaume-Uni, où vous êtes d'ailleurs protégé, sans inquiéter grand monde. Voilà, alors bon, là-bas, vous êtes chassable. On appelle ça la vénerie sur terre. Ouais, alors c'est vrai, monsieur le président. Alors, vous nous aviez classé nuisible, puis après, gibier. Parce que tout de même, vous avez le sens des nuances, c'est quand même un progrès. Et puis, pourquoi je vous en parle? Parce que dans l'actualité, patatras, le département de la Somme a un objectif extrêmement louable. Buter en 2016 1500 blaireaux. On n'imagine pas les méthodes, hein. Mais il se trouve que le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité a sorti un avis à cette conclusion. Ni le risque d'infection tuberculeuse en France, ni les dégâts qui serait causé aux cultures ne justifie un abattage massif de ces blaireaux. Alors continuons sur cet élan, un ciel sans oiseaux, des prairies sans fleurs, sans papillons, des vergers sans abeilles, des grenouilles muettes dont les cuisses dodues dansent au fond des poêlons, un univers d'asphalte, de parking et de béton publicitaire, d'une grisaille à pleurer. Vous ne voulez pas de ça? Oh bon, nous non plus. Et puis on va continuer merveilleusement.
Demain je m'y mettrai, je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez viens, demain sera trop tard. Y'a toujours une petite fête, promis demain j'arrête. Mais ce soir, la nuit sera sans fin.
Eh ben c'était Dutronc, oui Thomas Dutronc, c'était demain. Voilà, de la ferme des mille vaches dans quelques instants, taclée par l'écrivain Christian Laborde. Et puis nous aurons du béton pour construire, oui, mais demain, moins qu'avant, parce qu'on va découvrir le projet Hyperion à Bordeaux, qui est une tour avec beaucoup de bois. Et puis après, donc, je vous emmènerai en Guadeloupe.
Chic, choc.
Ah, les vaches.
Très tendance et pas cher.
Les sombres vaches.
Durable, au moins une heure par semaine.
Vache française. Ah, pardon.
C'est CO de mon amour avec Denis Chessou.
Et voici notre premier volet de CO de mon amour avec un homme qui a de l'humus et du nougaro dans le sang, des cailloux de Garonne et de Gave dans la voix, de l'herbe de Soulaine. Et Soulaine, ce sont des estives pyrénéennes dans l'âme. Un affectif de la vache, d'où d'ailleurs ce coup de gueule littéraire. Et depuis France Bleu Pau Béarn, dans la jolie cité paloise, au bord du boulevard des Pyrénées, on va rejoindre Christian Laborde. Bonjour Christian Laborde.
Bonjour Denis.
Alors Christian Laborde, vous avez sorti aux éditions du Rocher La cause des vaches. Et La cause des vaches, en fait, ça veut dire aussi libérons les vaches, fermons les usines à vaches. Alors évidemment, ça nous emmène dans la Somme, ça nous emmène en Picardie, à Drucas-le-Plessiel. Et là, c'est votre coup de gueule. Vous avez dit, ce n'est pas possible une société pareille qui est capable d'enfermer, alors déjà, ses volailles, ses porcs et aussi maintenant des vaches.
Oui, qui les enferme dans une ferme-usine. C'est ainsi que ça s'appelle. Oui. Ce n'est pas du tout une ferme puisqu'il n'y a pas de paysans, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas l'herbe. Nous sommes dans une usine où 1000 vaches sont enfermées pendant 5 ans. Dans des logettes de béton, où là, elles sont devenues des machines à viande, des machines à lait, également via la méthanisation des machines à watts. Et au bout de ces 5 ans d'usine, elles sortent uniquement pour se rendre à l'abattoir, où elles sont abattues dans les conditions que l'on sait, depuis que nous avons tous vu les images filmées par L214. Donc c'est absolument insupportable. Et ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas là en train de critiquer la modernité, je critique une barbarie. Il faut bien comprendre que moi j'ai connu les vaches libres, j'ai connu une civilisation de l'homme en harmonie avec le paysage et les animaux. Et là je découvre une barbarie. C'est une usine et voyez-vous, aujourd'hui on a viré les ouvriers des usines et on met à la place des vaches. Et la différence entre la vache et l'ouvrier, c'est que la vache n'a pas de syndicat. Oui. Alors donc on peut l'exploiter.
Alors évidemment, c'est bon, usine à bouse, usine à lait, maintenant l'animal, depuis peu de temps, n'est plus considéré comme un bien meuble, mais quand même, alors c'est vrai qu'on est très loin des tableaux de Rosa Bonheur, on s'en doute bien, en voyant donc ces vaches absolument en liberté, et puis alors vous rajoutez, parce que c'est aussi pour vous le prétexte d'écrire de très jolies phrases, autour du site, l'herbe a peur, elle tremble de toutes les chines de ses brins, les vaches pleurent, l'herbe est inconsolable. En fait, tout ceci raconte quand même quelque chose de notre société.
Cela raconte l'univers dans lequel nous vivons, où finalement ni les bêtes, ni les hommes, ni les paysages n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est le profit. Nous vivons dans une société de l'agro-business, en l'occurrence, où ne compte effectivement que les liasses et que le fric. Et tout cela se passe devant nos yeux dans une espèce d'indifférence générale. Car il faut bien comprendre que cette ferme, cette usine, d'une part, elle provoque la souffrance des bêtes. Et j'écris beaucoup, évidemment, oui, sur le calvaire des vaches. Mais évidemment, le second calvaire, c'est celui des petits producteurs qui, eux, vont devoir fermer boutique parce qu'ils ne peuvent s'aligner sur les prix du lait qui vont être imposés par la grande distribution. Prix du lait, évidemment, qui convient parfaitement à la ferme-usine. Et troisième temps, avec la méthanisation, ce sont les paysages qui vont morfler puisque l'on va épandre sur les parcelles environnantes des quantités et des quantités de digestat fournis par le méthaniseur. Donc les nappes phréatiques vont morfler.
Ce qui veut dire que tout le monde souffre. Les vaches souffrent, les petits paysans, les éleveurs crèvent aussi.
Voilà, c'est cela. Et puis tout cela à l'heure où précisément on organise la COP21, où l'on dit s'intéresser à la planète, et tout cela à l'heure où effectivement le droit français vient enfin de reconnaître les animaux comme étant des êtres sensibles. Il y a une contradiction et une cruauté insupportable.
C'est pour ça qu'il nous faut un peu de musique. Marcel et son orchestre.
Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches qui les aiment, qui leur chient dans les oreilles et aussi dans les yeux.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
Elles broutent, elles mangent, elles mâchent la pelouse. Et le soir, dans les prés, elles nous offrent les bouses. Et puis, faut les rentrer pour prendre le bon lait. Les trailleuses sont branchées, c'est la fin de la journée.
Chip, chip, font les machines font chip, chip. Me font les vaches font me.
On ne traite pas les mouches, car elles n'ont pas de lait. Et puis que les trailleuses, ça ne sait pas voler. Mais les vaches qui n'ont pas de lait, on leur coupe le kiki. C'est ce que t'as chez Leclerc. Et puis bon appétit.
Et bien voilà qui devrait plaire à l'homme qui a écrit le dictionnaire amoureux du Tour de France, qui a écrit l'homme aux semelles de swing, donc un homme de vagabondage. Christian Laborde avec nous avec la cause des vaches, la France contre les robots de l'agro. Et alors évidemment, ça nous ramène tout ceci à votre amour des vaches. C'est pas un hasard, hein, si vous avez pris fait et cause pour ces animaux. Ça nous ramène à Orléans. Nous sommes dans la Bigorre, donc nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Ce sont des coins superbes. C'est pour ça que je parlais de Soulaine tout à l'heure. Et oui, là, on est chez votre grand-mère. Alors évidemment, c'était une période où c'était pas encore le cancer des zones pavillonnaires partout. Et puis il y avait le passage des vaches.
Alors les vaches rythmaient en fait la vie du village. Le matin, elles sortaient de l'étable et rejoignaient les pâturages et elles rentraient le soir. Et que ce soit le matin ou que ce soit le soir, c'était toujours la même lenteur. Et j'étais fasciné par cette lenteur de l'animal, cette invitation qui était la sienne à prendre du temps. Parce que finalement, la vache ne rumine pas que l'herbe, elle rumine aussi le temps. Elle prend son temps et elle nous enseigne, elle nous invite à prendre du temps. À l'heure justement où nous vivons dans une espèce de sociale épilepsie, avec les managers, avec nos agendas, avec nos laisses électroniques, elles nous disent « oublie tout ça, prends ton temps ». Donc il y avait, si vous voulez, cette philosophie de la bête. Ensuite, il y a sa beauté. J'ai toujours été fasciné par la beauté des vaches. On dirait, avec ses taches claires et ses taches sombres, on dirait une portion de ciel. C'est-à-dire que la vache est une portion de ciel qui marche. Et le soir, quand toutes ces portions de ciel rejoignent l'étable, eh bien, l'étable devient le parking du ciel. Voilà ce que je ressentais quand j'étais enfant. Et il y avait aussi, quand j'étais gosse, à Orléans, la visite du curé dans l'étable. Il venait bénir les vaches. Et ça me frappait. L'idée que finalement, par cette bénédiction, eh bien, il est placé sur le même plan que nous. C'est-à-dire que la vache était l'équivalent du menuisier, le menuisier l'équivalent du petit veau, ainsi de suite. Il y avait là une espèce de posture à la Saint-François d'Assise, quoi, finalement. Et le fait qu'il les mette sur le même plan m'invitait à les respecter. Elles étaient comme nous. Et donc je viens d'une civilisation qui a vécu au contact des bêtes et qui a appris à aimer les bêtes et à les respecter. C'est pour cela que je souffre évidemment aujourd'hui, parce que j'assiste en quelque sorte finalement à la défenestration de ma propre enfance à travers ces projets d'élevage.
Et puis, évidemment, c'était d'une période où les vaches avaient des cornes aussi, hein, c'était important ça.
Absolument, elles avaient des cornes, ça faisait partie de leur beauté, et ces cornes-là, c'est un outil de défense, mais c'était aussi l'élégance de l'animal. Or, aujourd'hui, étant donné qu'on les enferme, qu'on les cloître, évidemment, on craint une forme d'agressivité, et du coup, bien entendu, avec de l'acide, quand elles sont toutes petites, quand elles sont génisses ou petits veaux, eh bien, avec de l'acide, on brûle les bourgeons de cornes pour que les cornes ne poussent jamais. Évidemment, tout cela sans anesthésie, puisque nous sommes un pays civilisé.
Bien sûr. Et alors aussi, Christian Laborde, pour revenir à une métaphore que vous aimez beaucoup, c'est vrai que les cartes de géographie qui étaient suspendues au tableau noir étaient absolument merveilleuses pour vous. Et puis, ça vous a rappelé que les vaches aussi pouvaient dessiner des cartes de géographie.
Oui, c'est quand elles rentraient le soir, elles se mettaient à pisser sur le goudron de nos départementales ou des rues du village. Et évidemment, je découvrais le fondement de l'expression « pleuvoir comme vache qui pisse ». Et là, effectivement, elles balançaient leur copieux jet et le soleil faisait sécher cela. Et ça dessinait sur la route des espèces de cartes de géographie. Si bien qu'il y avait la carte de l'instituteur, et puis il y avait d'autres continents qui étaient dessinés sur le goudron de nos départementales par les vaches. Tout cela était extraordinairement harmonieux. D'ailleurs, l'instituteur nous parlait des vaches. Et je me souviens qu'il voulait nous faire retenir les quatre estomacs que la vache possède. Il y a donc le bonnet, le feuillet, la panse, la caillette. Et on en oubliait toujours un, toujours. Et du coup, on avait une mauvaise note. Il fallait retenir ces quatre estomacs. Et l'instituteur avait mis au point un procédé mnémotechnique pour que nous puissions retenir ces quatre mots. Et ça donnait ceci. Quand je pense à mon bonnet, je feuillette mon cahier.
Gagné.
Et donc, on avait les quatre estomacs de la vache. Et cette harmonie-là, elle existe encore aujourd'hui. Et ça, je voudrais bien le dire. Chez les éleveurs qui ont 300 ou 200 bêtes, des bêtes qui vivent dehors. C'est ça qui est important. L'élevage que je combats...
Il y a plein d'éleveurs qui bossent très bien.
Voilà, il y a une alternative.
France, il faut le dire.
Il faut le dire. Et je voudrais raconter une petite histoire. Un jour, je me baladais sur nos routes que vous connaissez, à vélo.
Oui.
Et je tombe sur un paysan qui était heureux, un éleveur. Il venait de terminer le hangar sous lequel il allait installer ses vaches. Il me dit « Je suis heureux ». Parce que j'ai obtenu pour elle la lumière idéale. En disposant les ouvertures, il avait créé la lumière idéale. Et je lui dis, mais comment savez-vous que cette lumière est la lumière idéale pour les vaches? C'est pas compliqué, il me dit. Je prends un livre, et dès l'instant que je peux lire ce livre à n'importe quel endroit du hangar, c'est la lumière idéale pour la vache. C'est extraordinaire.
C'est
ça veut dire que la lumière qui convient à la vache, c'est la lumière qui convient à l'homme pour lire. Et la vache est heureuse si on lui lit le livre à l'oreille.
Me font les vaches font me font les vaches font me.
Alors Christian Laborde, les vaches sont-elles sacrées? Parce que si on se souvient de cette déesse du ciel qui était la déesse Hathor, elle était bien gaulée d'ailleurs, hein, je crois que c'était...
Oui.
Hein, on est bien d'accord.
C'était un très bel animal.
Voilà, elle avait un corps de vamp et puis une tête de vache, c'est ce que vous vous rappelez. Donc là on était en Égypte et le ciel était en peau de vache, c'était ça aussi.
C'est cela. D'ailleurs, cette histoire de ciel en peau de vache, ça me fait penser à un peintre qui s'appelle Eugène Boudin.
Oui.
Qui est un peintre de Normand, et toute sa vie, il a peint des ciels, généralement nuageux, de très beaux ciels. Je crois qu'on le considère comme un précurseur des impressionnistes.
Totalement, et Manet lui doit beaucoup.
Manet lui doit beaucoup. Voilà. Et vers la fin de sa vie, il a peint des vaches. Et quand on regarde les tableaux et de vaches et de ciels, on se rend compte que Eugène Boudin a peint la même chose. Donc, le ciel est bien en peau de vache.
Merci beaucoup Christian Laborde. La cause des vaches est aux éditions du Rocher. Un grand merci à nos amis de France Bleu Pau-Béarn qui vous ont accueillis donc tranquillement chez vous. Jacques Lemaire, Joël Bitou, donc merci beaucoup. Et puis à très bientôt sur les routes de France, on va dire, Christian Laborde.
Oui, sur les routes, sous nos belles départementales. À très bientôt, Denis.
Et cette interview a été réalisée, bien sûr, d'une seule traite, vous vous en doutez bien. Donc vous avez bien noté que quand je pense à mon bonnet, je feuillette mon cahier. À suivre, une tour en bois. Mais on va poursuivre sur la vache, ouais. Avec qui? Paris Combo, sur France Inter.
Pourquoi les vaches? Oui, pourquoi les vaches? Pourquoi les vaches bleues?
C'était Paris Combo, les vaches. Deuxième sujet. Ah, je vois une tour en bois, c'est intéressant. Les immeubles en bois poussent partout maintenant dans le monde, en Australie, au Canada, à Stockholm. Vienne accueillera en 2017 le plus grand gratte-ciel en bois du monde, disent-ils, 84 mètres. En Suisse, à Londres. Tenez, alors là, plus simplement, Ris-Orangis, 140 logements sur 4 étages, construits donc par Eiffage, qui sortira en septembre. Et puis, nous, on va aller du côté de Bordeaux, du côté du quartier Saint-Jean, avec une tour qui va pousser, une tour Hyperion, 57 mètres, 18 étages, que l'on doit à l'architecte Jean-Paul Viguier. Et moi, je vais me tourner vers Jacques Bouillot, qui est le directeur bois filière sèche chez Eiffage, donc qui va la construire, cette fameuse tour en bois. Bonjour à vous. Et donc, on est quand même dans une révolution culturelle, parce que le bâtiment, c'est un milieu gentiment conservateur. Et là, un gros du bâtiment, quand même, ne pense plus qu'avec l'acier et le béton.
Bonjour Denis. C'était le bois, le béton et l'acier, comme vous dites, mais le bois était quand même déjà présent, mais il était présent dans des segments de marché, la maison individuelle et les petits collectifs.
Depuis le Moyen-Âge, dans les maisons à colombage, bien sûr.
Depuis un certain nombre d'années, oui, effectivement. Oui. Là, effectivement, la nouveauté, c'est qu'on commence à monter en hauteur. Et donc, on commence à envisager des bâtiments... Alors, le bâtiment de 80 étages ou 80 mètres, c'est assez exceptionnel. Mais par contre, on envisage sérieusement de construire des bâtiments de 4 étages jusqu'à 17 étages.
Alors, ça veut donc dire qu'en fait, les panneaux ont aujourd'hui une capacité de portance et de résistance qui permet donc de dépasser ces étages ou ces 15 étages.
Effectivement, la nouveauté est portée par ces panneaux, en fait. C'est le changement de technologie qui nous permet d'envisager ça. Là où il y a encore une dizaine d'années, avec les méthodes constructives de l'époque, qui marchent encore hein, dans la maison individuelle, on ne pouvait pas envisager de le faire sur des niveaux supérieurs.
Alors la nouveauté, ça s'appelle le bois lamellé croisé. Je ne vais pas dire que c'est exactement une nouveauté, parce que en 1947, donc un homme qui s'appelait Pierre Gauthier, a donc inventé cela, puis après c'est tombé dans l'oubli justement au profit du béton. On est resté quand même très conservateur dans ce domaine. Mais alors ce bois lamellé croisé, donc c'est plusieurs lames de bois en résineux qui sont croisées à 90 degrés. Alors, on peut faire des panneaux assez immenses.
Hein. Alors on peut faire des panneaux qui font jusqu'à 16 mètres de long, 3 mètres de large et avec différentes épaisseurs. Quand ils sont positionnés en verticale, on peut reprendre des charges phénoménales qui peuvent être supérieures à 40 tonnes du mètre linéaire.
Ah oui.
Et donc vraiment empiler des planches de bois les unes sur les autres sans aucun problème.
Alors parlez-nous maintenant de ce que vous allez réaliser qui va sortir en 2020 donc dans le quartier Saint-Jean. Donc on est dans la ville de Bordeaux avec cet Hyperion Euratlantique. Moi je rappelle que l'Hyperion c'est quand même d'abord un nom de séquoia géant en Californie qui a plus de 600 ans et 115 mètres de haut. Et puis c'est aussi un des titans qui était assimilé au soleil dans la mythologie grecque, donc rien que ça. Qu'est-ce que ça va être? Parce qu'en fait, il y a quand même un cœur qui est en béton dans cette histoire.
Oui, le cœur est en béton et vous touchez là peut-être le fond du sujet du bois.
Racontez-nous.
C'est notre philosophie à notre entreprise, Eiffage, ouais. Qui est de dire il faut essayer de mettre le bon matériau au bon endroit. Mmh. Et la guerre aux matériaux, en fait, c'est pas trop notre tasse de thé. Donc c'est pour ça que quand on parle de filière sèche, on envisage également l'acier. il faut toujours trouver pour un projet déterminé, à un endroit déterminé, le meilleur compromis de tous les matériaux par rapport aux contraintes qui nous sont imposées. Par rapport à la structure et donc au noyau, ça va être des contraintes de sismique et des contraintes de vent.
Alors ça veut dire que donc les fondations sont en béton, les cages d'escalier aussi, et les cages d'ascenseur. Quoi.
Par contre, la cage d'escalier, selon les cas, selon l'endroit, selon les vents, on pourrait éventuellement évoluer vers des cages en bois.
Alors qu'est-ce qu'il y a d'original justement dans cette affaire-là ? En fait, c'est tout le reste qui est en bois.
Donc effectivement, la fondation en béton, le noyau central en béton, et tout autour, on va créer des plateaux en bois qui sont positionnés sur un système de poteaux-poutres. En fait, on va reconstituer une sorte d'immeuble. Alors, je ne vais pas dire d'immeuble de bureau puisque c'est destiné à du logement.
Oui.
Mais c'est bien un principe de plateau qui vont s'élever les uns au-dessus des autres. Et puis, en façade, on va essayer de mettre un principe de panneau classique à ossature bois qui sera accroché à chaque nez de plancher.
Alors, on fait cela maintenant pourquoi ? Puisqu'on avait une réflexion extrêmement béton, on va le dire, pendant des années chez les constructeurs. Le public donc évolue, le bois, on s'intéresse aussi à cela parce que c'est un excellent isolant naturel. Puis aussi, il y a le CO2, il y a le réchauffement climatique.
Effectivement, aujourd'hui, il y a une demande de la part de nos clients à réaliser des bâtiments en bois. Construire en filière sèche, c'est construire beaucoup plus vite. Et donc la notion de rapidité d'exécution est intéressante pour nos clients puisque en fait ils ont une exploitation possible de leur
c'est ouvrage. Intéressant pour tout le monde, pour le constructeur et pour le client quoi. Et
voilà. Puis le second point, c'est la notion environnementale.
Un mètre cube de béton, c'est 471 kg de gaz à effet de serre, tandis que un mètre cube de bois lamé des croisées que vous utilisez, ça va capter 460 kilos de carbone sur la durée de vie du bâtiment.
Oui, alors pour vos auditeurs, moi je pense qu'il faudrait distinguer deux choses. La notion de stockage de carbone et la notion d'émission des produits lors de la construction, lors de leur réalisation. Tout matériau mis en place dans un bâtiment émet du carbone.
Bien sûr.
Tous. Donc la question c'est de savoir qui en émettra le moins. Et là, le bois gagne la partie par rapport à une solution béton, puisque quand on va créer un produit manufacturé en bois, en global, on peut estimer qu'il va émettre 4 fois moins de carbone que le même produit à fonction égale en béton. Donc c'est intéressant.
On y en plus au bois, et les haies sont coupées, car ici on ne pense qu'à la rentabilité. Oui, c'est assez bon.
Entrez dans la danse, oui. Voyez comme on danse. Sautez, dansez, tronçonnez qui vous voudrez.
France Inter, CO2 mon ami. Avec Denis Chessou.
Il vient d'où ce bois ?
Alors ce bois, il vient de la forêt. il vient.
C'est bon.
Ce bois vient de différentes provenances. Il peut venir de France. Je dirais que c'est en fonction de l'usage qu'on va en faire. S'il est structurel, aujourd'hui, il vient majoritairement des forêts autrichiennes ou germaniques. S'il est en ossature, il peut venir assez facilement des forêts françaises.
Alors justement, intéressons-nous donc à ces forêts toujours, parce que c'est 26% de la surface forestière. Est-ce que c'est... Et puis on demande beaucoup de choses. On demande du bois énergie, on demande des meubles, on demande de la construction. Cyril Lepicard est le président de France Bois Forêt, donc l'interprofession nationale qui soutient les ressources forestières et la filière. Il est faux, s'il est vrai, on va détruire la forêt.
Actuellement, les arbres sont verts. Et ils sont verts, ils prennent, chaque arbre prend entre 10 et 15% de volume supplémentaire chaque année. Ça, c'est très important. La forêt grandit, elle grossit. Et de ces 10 à 15%...
Le réchauffement climatique, elle aime le CO2, de toute façon.
Voilà. Oui, absolument.
Oui, bien sûr, oui.
Et derrière ça, nous récoltons 60% des 15%. Supplémentaire. C'est-à-dire que, en fait, la forêt française, et ça faut bien que les auditeurs nous le savent, la forêt française grandit perpétuellement en France. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a pénurie de matière, de bois, et la filière forestière que je préside, justement, fait très attention et s'organise en conséquence pour éviter une, entre guillemets, déforestation qui n'existe pas en France, pour moi.
Bon, alors de ça, c'est une chose. Alors, on reviendra dans une émission future, donc à la rentrée, sur la gestion des forêts, sur les coupes à blanc, sur les ornières, sur la filière d'ailleurs aussi, hein, parce qu'elle n'est pas encore très très bien organisée, moins qu'on puisse dire en France. Mais en tout cas, c'est en train de venir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De nouveau, je me tourne vers vous, Jacques Bouillot, dont je le rappelle, directeur bois chez Eiffage. Alors peut-être autre idée fausse, hein, dans mon habitation, ben, elle a peut-être brûlé plus vite parce que justement, il y a du bois.
Ah non, je peux vous dire que la personne qui me pose le moins de soucis en conception, c'est le pompier. Il y a une vraie connaissance de la progression du feu dans un bâtiment en bois, et ça ne l'effraie pas les pompiers.
Et on voit beaucoup de portes coupe-feu qui sont en bois.
Ah bah tout, oui, pour l'essentiel, oui, tout à fait. Oui, oui. Le bois avance à une certaine vitesse, le feu avance avec une certaine vitesse dans le bois. Il se trouve que au fur et à mesure qu'il progresse, il va ralentir, puisqu'il va y avoir un phénomène de saturation et l'oxygène ne va plus arriver, donc le feu va se freiner tout seul.
Jacques Bouillot, l'avenir, on va s'y mettre, on va construire davantage.
Je pense, oui.
On le sature bois.
Ben, en fait, aujourd'hui, la part du bois dans la maison individuelle, hein, c'est environ 12-13% à peu près. Et là, dans les bâtiments de plus grande hauteur, on part de zéro. Et on pense que raisonnablement, on pourrait arriver à des pourcentages assez similaires à ceux de la maison individuelle.
J'ai vu que votre futur tour Hyperion, en fait, ce serait a priori 2/3 de bois français, Pin des Landes et Épicéa.
Alors l'Épicéa viendra du Limousin, et par contre, la fabrication du bois massif contrecollé sera réalisée chez un transformateur local.
Merci beaucoup. Troisième sujet à venir, on va partir du côté de la Guadeloupe. Connaissez-vous la grive à pied jaune? J'attends. Alors, si vous êtes en Guadeloupe, oui, sinon peut-être pas. Vous allez voir, il y a un très très beau combat qui se mène. France Inter, c'est au-delà de mon amour.
É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. E o que eu sinto, não mudará. Tudo que quer me dar. É pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
Yeah, that's it. There's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel. Won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é
to give me.
É too pesado.
Much. It's
não
heavy.
Há paz. Tudo
There's
que
no
quer
peace. All you want from me is a real expectation.
Expectations
now we're falling,
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 falling.
C'était joli, ça, choisi par Thierry Dupin. C'était Vanessa Data et Ben Harper. C'était en 2008. Troisième sujet qui nous emmène en Guadeloupe. Béatrice Ibéné est vétérinaire et elle est aussi membre de l'ASPAS. Et là, vous allez voir, on va découvrir un animal et un sacré combat. Ah, alors là, Béatrice Ibéné, on est chez vous en Guadeloupe et vous nous emmenez dans une forêt marécageuse. Où sommes-nous ?
Nous sommes aux Abîmes, à Belle Plaine aux Abîmes.
Voilà, alors à quoi ressemble cette forêt marécageuse ? On connaît la forêt tropicale qui n'est pas très loin, hein, parce que là on la voit avec le massif de la Soufrière. Et là, bah, là, on imagine bien qu'on est davantage un peu plus dans la plaine, quoi.
Oui, de la plaine inondée, parce que comme tu vois, il y a de l'eau. Ouais. Donc la forêt marécageuse, c'est une forêt en fait qui est entre la mangrove et la terre ferme.
Ah, c'est ça.
Voilà, qui se développe plutôt en eau douce, légèrement saumâtre, et qui est caractérisée par ces arbres magnifiques, hein, qui sont les mangles médailles, qui n'ont rien à voir avec les palétuviers rouges qui caractérisent la mangrove. Tu vois que ce sont de très grands arbres avec une canopée de 15-20 mètres.
Ouais.
Et sur ces arbres, on a beaucoup d'épiphytes. Donc en fait, c'est une forêt quand même assez dense et elle est très riche en biodiversité, notamment en termes d'oiseaux et chauves-souris. Et parmi les oiseaux, c'est un des derniers habitats en grande terre de la Greva Padjone.
Bon, et celle-là, elle est pas très en forme. Alors, on va d'abord la dépeindre. On va bien sûr mettre une photo sur le site de CO2 Mon Amour.
Là, elle est pas jaune, de son nom, Greva Pied Jaune. Un peu mouchetée, tachetée, marron à beige. Un très joli oiseau qui est forestier, qu'on trouve en forêt tropicale humide, dense, qu'on trouve également en forêt marécageuse et dans la forêt des grands fonds. Mais la forêt des grands fonds s'effondre
complètement grande terre,
donc, sur grande terre.
Ouais.
Donc voilà, sur grande terre, elle est vraiment de plus en plus menacée. Parce que elle subit, enfin son habitat subit une fragmentation.
Alors qu'elle est au charbon de bois, entre autres.
Oui, lié à l'exploitation du
charbon de bois. Comme d'ailleurs pour le totobois qui est le pic de la Guadeloupe.
De toute façon, les défrichements inconsidérés dans les grands fonds nuisent à tous les oiseaux forestiers, que ça soit effectivement le pic de la Guadeloupe, le tapeur, le totobois, ou la grive à pattes jaunes, mais aussi d'autres espèces qui dépendent des arbres.
Alors Béatrice, donc, d'abord, pourquoi cette passion pour cette grive à pattes jaunes? Et puis, expliquez-nous, on ne comprend pas très bien pourquoi, a priori, elle est en voie d'extinction.
Alors en fait, la grive à pattes jaunes symbolise un peu ces espèces endémiques qui ont une espèce de vulnérabilité intrinsèque parce que c'est des petites populations qui n'ont pas une très grande diversité génétique.
Ah oui.
Donc voilà, cette grive-là, en tout cas, elle a des facteurs intrinsèques de vulnérabilité. Premièrement, deuxièmement, c'est une espèce, on l'a dit, quasiment strictement forestière. En dehors des bananeraies, elle ne se trouve qu'en forêt. Donc très sensible au défrichement. Et puis c'est une espèce qui subit également l'expansion des espèces exotiques envahissantes, donc de la mangouste principalement, et des chats errants.
La mangouste, donc, elle est arrivée, je crois, vers 1890, ici sur l'île.
Oui, c'était au départ pour lutter contre les rats, et puis elle s'est intéressée
à
plein d'autres bêtes, notamment les reptiles. Oui. Elle est incriminée dans la disparition, dans l'extinction de plusieurs espèces de reptiles endémiques des Antilles françaises. Et pour revenir à la grive à pattes jaunes, le dernier facteur de menace qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, c'est son imprégnation par le chlordécone.
Oui.
Or, comme tu le sais, le chlordécone, c'est un perturbateur endocrinien chez l'homme, mais chez les animaux et chez les oiseaux.
On rappelle pour nos amis qui nous écoutent que le chlordécone, donc c'était cette lutte contre le charançon, donc c'était un insecticide extrêmement puissant et qui est donc extrêmement rémanent dans les sols puisqu'il peut rester entre, on va dire, un siècle jusqu'à
600 ans. Et donc en fait les sols sont contaminés pendant tous ces siècles et ils contaminent aussi la faune et l'eau. Donc les grives à pattes jaunes qui se nourrissent en fait sur le sol parce qu'elles mangent tantôt des petites baies mais également beaucoup de petits insectes, elles boivent beaucoup au sol. Et en fait on a découvert qu'il y avait des taux absolument énormes de chlordécone dans ces grives à pattes jaunes pour la région du croissant bananier. Résultat, il y a fort à craindre que ces fonctions de reproduction soient atteintes puisqu'on sait que le chlordécone est reprotoxique, il est toxique pour les fonctions de reproduction des oiseaux. Il est un perturbateur endocrinien, donc il peut entraîner une chute des pontes, une différence de ratio entre mâles et femelles. Bref, il y a du souci à se faire pour les grives qui sont dans le croissant bananier.
Et puis on va rajouter aussi la chasse.
On y arrivait, parce que ce qui est vraiment cynique, le cynisme vraiment de l'État français, c'est d'avoir très logiquement interdit la consommation des grives, puisque les oiseaux concentre beaucoup de chlordécone, donc c'est un gibier qui est contaminé, donc contaminant, dangereux à la consommation. L'État français interdit la consommation, mais autorise les chasseurs à la tuer. Donc en fait, on leur dit, tuer pour pur plaisir.
Vous pouvez faire du ball trap avec la griffe à pattes jaunes.
Voilà, exactement, et de façon déjà dénuée de toute éthique, parce que voilà, tuer juste pour le plaisir, mais en plus une espèce qui est classée mondialement menacée. D'accord. La grive fait partie des espèces vulnérables inscrites sur la liste des espèces mondialement menacées.
C'est-à-dire
confrontée à un risque élevé d'extinction. Voilà. C'est un oiseau qui est endémique des petites Antilles et que de quelques îles seulement. Maintenant, on ne la retrouve plus qu'à Dominique, Guadeloupe et Montserrat. Donc une répartition géographique extrêmement limitée.
Mmh. Alors la chasse, j'ai presque dit que c'était aussi un sport national aussi important que la possession de voiture, même si c'est deux choses un petit peu différentes. Mais comment se fait-il que quand même les chasseurs ne s'auto-régulent pas eux-mêmes par rapport à ça?
Alors quelques chasseurs commencent à prendre conscience que la grive à pattes jaunes, de toute façon ils constatent qu'elle est quand même de plus en plus rare. Disons qu'un tiers seulement de son habitat est protégé par le parc national.
Oui.
L'autre tiers est soumis à la chasse en Guadeloupe, et le dernier tiers quasiment, puisque sur Grande-Terre, elle est vraiment extrêmement rare maintenant. Et le dernier tiers, on a des animaux qui sont contaminés par le chlordécone. Et les chasseurs tirent sur deux tiers en fait de la répartition de l'espèce. Donc certains chasseurs commencent à prendre conscience du risque des ravages et se limitent. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a un quota de quatre oiseaux par chasseur. Et par jour de chasse, avec une vingtaine de jours de chasse dans l'année quand même sur la grive à pattes jaunes, on arrive potentiellement à 228 000 grives que l'État autorise de tuer. Or, la population de grives en Guadeloupe est estimée à 48 000.
Alors pourquoi... j'ai problème mathématique, ça on comprend assez bien.
Et alors, nous ce qu'on demande évidemment c'est le classement de l'espèce... Voilà, sur la liste des espèces protégées. Donc on essaie de sensibiliser quand même les chasseurs, mais il revient vraiment à la ministre de l'écologie de donner à cet oiseau le statut qu'elle mérite, à savoir le statut d'espèce protégée.
Une opération commando au cœur des Landes. 7h du matin, ces militants de la Ligue de protection des oiseaux volent au secours des ortolans. Un migrateur protégé, mais toujours capturé dans ses cages.
Alors, on va y aller directement. Pourquoi est-ce qu'on s'écrase devant les chasseurs une fois de plus? C'est-à-dire que y a quoi? Enfin, politiquement, c'est fort.
Oui. Alors déjà, on est en France pour ça.
Oui, c'est vrai qu'on est
en France. C'est une caractéristique française. Si tu vas dans les îles à côté, Dominique, on chasse pas. Ouais. Antigues, on chasse quasiment pas. Enfin, toutes les autres îles anglophones, indépendantes ou pas d'ailleurs, ne chassent pas ou que très peu. En Guadeloupe comme en Martinique, on a une pression de chasse énorme. Il y a 2400 chasseurs plus 600 braconniers. On doit être aux alentours de 3000 chasseurs avec une période de chasse la plus longue de toutes les petites Antilles sur l'année. On chasse pendant 6 mois. C'est une chasse qui est étalonnée.
Comme pour la France.
En Guadeloupe, on chasse sans schéma départemental de chasse. Quand il y a des quotas, ils ne peuvent pas être contrôlés puisque les oiseaux ne sont pas marqués.
Oui.
On chasse le plus grand nombre d'espèces, une soixantaine d'espèces chassables. Enfin, on a tous les records en matière de chasse légale aux Antilles françaises. Donc ça, c'est une caractéristique bien française. Néanmoins, il faut rappeler, et la ministre le sait très bien, que l'outre-mer français, c'est 80% de la biodiversité.
Oui.
Que la France est sixième pays au rang mondial des espèces menacées. Ce serait bien de passer un peu aux actes et de protéger concrètement cette biodiversité en commençant par au moins laisser à cette espèce les capacités de résilience, de se refaire avec ce chlordécone et ne pas obérer donc ses capacités de résilience.
Et puis on l'a un petit peu là au-dessus de nos têtes, bon, à une bonne distance hein, quand même, là on en voit
elle
deux.
Elle est très farouche.
Oui quand même, non, on n'est pas à côté.
La pression de chasse, ça a rendu aussi l'observation des oiseaux en Guadeloupe en général très difficile.
Mais alors qu'est-ce qu'elle est belle quoi. Enfin,
elle est belle et puis elle a un chant, là elle va pas vouloir chanter, mais elle a un chant très mélodieux, c'est un des oiseaux qui a le plus beau chant.
Oui, si, elle va chanter. Allez mes mères, fais-nous ça, voilà.
Sinon, c'est une jeune fille.
Jeune fille, chante. Oui, pas mes mères, pardon. Voilà, soyons corrects avec la grive de chez vous. Et alors à côté, on a quand même tout un autre cortège d'oiseaux hein, ici, qui sont pas mal.
Alors il y a la paruline, c'est vrai que là, sur ce site-là, on a la chance d'avoir la paruline caféiette, qui est un petit oiseau, une petite paruline, donc noire et blanche, très mignonne.
La paruline.
La paruline, dites, voilà. Et qui en fait
est
endémique, c'est une petite paruline ou un petit passereau, qui est endémique de la Dominique et de la Guadeloupe.
Alors vous lâchez rien, hein. Je veux dire, Béatrice Ibéné, on va le rappeler, donc je le disais, donc vous êtes vétérinaire, vous êtes une passionnée, alors à la fois des animaux évidemment familiers, mais aussi des animaux sauvages. Ça c'est votre grand combat. Et vous y allez, vous y allez parce que vous dites, attendez, c'est du vivant, on fait partie de ce vivant, et retrancher une partie de ce vivant, c'est se retrancher peut-être une partie de nous-mêmes.
Complètement. Et puis on a une responsabilité qui est énorme en matière d'espèces endémiques, elle est totale. Ouais. Il y a une conservationniste américaine qui a dit. Pour un pays, ce qu'un pays choisit de sauver et ce qu'un pays choisit de dire au monde de lui.
Eh bien, merci à vous, Béatrice Ibéné. Donc, vous voyez, effectivement, vous avez des gens sur le terrain qui font pas mal de choses. Avec, donc, l'ASPAS, parce qu'elle représente l'ASPAS, donc, en Guadeloupe, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Tiens, une grande Sophie. Ouais, j'ai France Inter.
Will you remember my hand caressing the milk of your skin? We'll be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end the subtle dance of fading spring? And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens.
On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent et je regarde en face. Les portes claquent sur mes joues. Mes questions à devenir fou. Vu le temps qui presse. Les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Elle était jolie l'histoire. Elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve, loin de la routine. L'indifférence d'un demi-roi, que quelques coups de chevrotine. On ne s'est jamais revu, vu le temps qui passe. Les années qui défilent, je regarde en face. Les portes claquent sur mes genoux. Les questions à devenir fou. Vu le temps qui presse. Les traces sur mes joues laissent des maladresses. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on ne se reverra plus. Oui, je sais, je m'attache au regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache quand ils ne savent plus revenir.
Will you remember my hand cursing the milk of your skin? Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. We never met again. Then time goes by, search into the room where we find the lights. Draw a stand over my face, on your tongue, sour taste. Just stand, time goes by. Little to the moon, nothing left behind. The hell, we are standing here, cause anyway, we never meet again.
C'était Les Portes qui claquent, signé La Grande Sophie et Nicolas Lee, donc sur la playlist de France Inter. Entre les mains, mais je vous en avais déjà parlé, le numéro de Terre Sauvage de ce mois de juin, avec un très très beau dossier sur les abeilles, donc n'hésitez pas. Et pour terminer, eh ben, on entend déjà des petits sons. Bonjour à vous Julien Milanesi.
Bonjour Denis.
Alors Julien Milanesi, vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse en économie, donc vous êtes économiste. Et puis avec Sophie Métric, eh bien, vous avez sorti un film qui s'appelle L'intérêt général et moi. Alors vous êtes dans différentes salles, vous discutez bien sûr avec le public. Quelle est l'idée générale de cet intérêt général et moi, s'il vous plaît?
Bah, l'idée, c'était de venir interroger la décision publique sur les grands projets d'infrastructures de transport à partir de trois exemples qu'on a expérimentés de façon plus ou moins directe dans nos vies, qui était une autoroute dans le sud-ouest, l'autoroute A65 qui a été construite, et c'est le projet aussi de ligne à grande vitesse qui a une grosse actualité aujourd'hui du sud-ouest, la ligne Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Espagne, et puis Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et l'idée de notre film était de voir sur ces projets-là, qui étaient défendus au nom de l'intérêt général, sur lesquels on faisait beaucoup de sacrifices au nom de l'intérêt général, général, des sacrifices de territoire, des sacrifices de vie, de biodiversité, voilà, de choses dont vous parlez régulièrement dans vos émissions. L'idée, c'était de voir, voilà, qui décidait sur ces projets, au nom de quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était que l'intérêt général, au nom de quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il contenait et qui le défendait, sachant que voilà, on avait l'impression, nous, pour avoir fait partie de certaines associations qui se battaient contre l'autoroute à 65, qu'on défendait aussi des valeurs d'intérêt général et de voilà, d'essayer de comprendre un petit peu, de donner la parole un peu à tous les acteurs là-dessus, sur ces projets-là, et de comprendre à la fois qu'est-ce que c'était l'intérêt général et qui finalement décidait.
Parce que c'est quand même voilà cette mécanique. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir effectivement la mécanique de décision en face. Vous l'avez très bien dit. On va vous dire, mais attendez, de toute façon, c'est du développement, c'est de l'intérêt général. Faisons effectivement des autoroutes. Bon, là, on s'est un petit peu calmé quand même. Si on prend justement, alors ça, vous l'avez bien suivi, cette fameuse autoroute qui est la A65 entre Pau et Langon, qui fait, me semble-t-il, 150 km. On a parlé des phages tout à l'heure. Enfin, là, c'était eux les constructeurs avec une société donc qui s'appelle Aliénor. Elle est quand même pas exactement donné, hein, me semble-t-il, pour une voiture.
Oui, c'est près de 25 euros les 150 km.
Voilà.
Bon, donc c'est une des plus chères, si ce n'est la plus chère de France.
Alors, c'est la plus chère de France. Mais on va vous dire. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des progrès, ils ont fait de la compensation. On va vous dire biodiversité, c'est-à-dire qu'on fiche en l'air des territoires, enfin une partie du territoire, et puis à côté de ça, on va essayer de compenser. Bon, alors là c'est vrai que c'est différent, hein, par rapport à la conception d'autoroutes comme les premières qui ont existé en France. Mais alors où en est-on de cette autoroute? Elle a maintenant, elle a été ouverte en 2010. Hein.
Oui, elle a été ouverte en 2010, donc elle a 5-6 ans d'exploitation. Donc elle a perdu, si vous voulez, depuis le début de l'exercice, elle a perdu à peu près 130 millions d'euros, sur les différents exercices. L'équilibre financier est un peu meilleur parce que...
Le dernier exercice a été vendu comme étant en équilibre, mais il faut dire aussi qu'il y a une baisse des taux d'intérêt. Hein.
C'est ça, en fait, c'est en rachetant leurs prêts, comme beaucoup de gens ont fait, qu'ils ont réussi à baisser. Mais l'histoire n'est pas du tout dite, et ce qui est intéressant sur ce projet, comme sur tous les autres en fait dont on parle, c'est qu'ils sont assis sur des prévisions de trafic qui sont irréalistes, alors que ça soit des trafics de voitures sur l'autoroute A65, de trains sur les lignes à grande vitesse ou d'avions à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que tous ces projets sont justifiés par une vision du monde, et c'est là c'est intéressant, c'est-à-dire de confronter ces visions du monde et de l'intérêt général avec d'autres, des visions du monde qui sont assises sur la croissance, sur la quantité, l'augmentation des trafics routiers, de la mobilité, de la vitesse. Et ce qu'on essaie de montrer, nous, dans le film, c'est que justement, à ces visions-là, dont on voit aujourd'hui de plus en plus les limites, pour plein de raisons dont vous parlez aussi régulièrement, mais aussi les limites économiques, comme on le voit sur la 65, face à ces visions-là, eh bien, vient s'opposer maintenant des associations qui défendent un autre usage, notamment de l'argent public, en disant plutôt que de faire des grands équipements qui nous font aller très vite, on pourrait peut-être faire des équipements de transport de proximité, et qui défendent finalement, on pourrait le dire pour le résumer, la qualité de la vie face à la quantité, à la croissance, à la vitesse, etc.
Julien Milanesi, où peut-on trouver ou voir ce film, là très rapidement?
Alors ce film, L'intérêt général et moi, donc on peut trouver tous les lieux de diffusion partout en France sur le site internet du film, et plus particulièrement à Paris. Le film sera diffusé le 27 juin au cinéma La Clé, et puis également le 2 juillet pour une soirée avec notre distributeur, la coopérative Direction Humaine des Ressources, au cinéma de Montreuil, au Méliès de Montreuil, le 2 juillet.
Alors le temps pour nous, parce qu'on l'a un peu improvisé, de mettre le lien sur le site de CO2, on va le faire tout à l'heure tranquillement. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à Gaël Braouzek, à Grégory Vallon, à Sophie Sayo-Marie, qui était notre régisseuse aujourd'hui. Grand merci à Lilian Allôme, Claire Destacan. Une pensée très forte à l'ami Xavier Pestugia, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, je pense que ça va être très très différent encore. Pour notre petite dernière, je vous emmènerai dans le Lot chez un écrivain qui parle bien de nature, qui s'appelle Christian Signol. On retrouvera aussi le docteur Laurent Chevalier. Enfin, pas mal de surprises. 7h55 le dimanche matin, Bougrain-Dubourg chez Patricia Martin. 7h20 en semaine, Nathalie Fontrel. Et puis, le podcast, vous en avez largement l'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end. La Tulu, mon petit loup, ce sera demain à 19h54. Oui, ou peut-être 5, je sais pas. Après le petit bateau.